Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller. Aujourd'hui, c'est l'heure du podcast des maternelles. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important, le harcèlement scolaire. Alors, on en parle de plus en plus et c'est une bonne chose, car il faut en parler, il faut accompagner les parents, il faut donner des conseils aux parents pour leur dire comment aider les enfants quand ils sont victimes de harcèlement, voire même quand ils sont harceleurs eux-mêmes. Donc, dans cet épisode du podcast des maternelles, vous allez entendre le témoignage de Sacha, 18 ans, harcelé de l'école primaire jusqu'au lycée, donc témoignage lourd. Et puis derrière, nous aurons les conseils, les bons conseils d'Emmanuel Piquet, qui est une invitée que l'on aime bien dans la maison des maternelles, que l'on invite régulièrement, notamment pour parler de ce sujet. Donc c'est parti, on écoute Sacha avec Agathe Le Caron.
Des moqueries répétées en classe, des enfants roués de coups. Bah oui, roués de coups à la récréation, des insultes qui se poursuivent à la maison, sur les réseaux sociaux. En France, chaque année, 700 000 élèves sont victimes de harcèlement scolaire. Bonjour Sacha.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous avez 18 ans. Alors, vous avez été victime de harcèlement scolaire, vous, de la 6e jusqu'à l'année de première. Donc, c'est vraiment là pour le coup. Un long, long, long parcours. Merci de venir témoigner sur ces années de souffrance. Et évidemment, pourquoi est-ce que vous êtes là? C'est pour aider les victimes à briser le silence, parce que je crois que c'est vraiment le point clé. Alors, on le disait, le harcèlement scolaire, il a commencé pour vous à l'entrée du collège. En primaire, comment ça se passait avec vos camarades? Ça se passait bien?
En fait, en primaire, je suis rentrée dans une classe CHAM, classe à horaire aménagé musique. Donc, moi, comme j'aime la musique et je savais depuis toute petite que je voulais être chanteuse, pour moi, c'était juste trop bien. J'étais juste super heureuse de pouvoir faire ça. Et en primaire, oui, les moqueries ont un peu commencé où ils me disaient voilà, Sacha, arrête de chanter, Sacha, arrête de te la péter avec ta voix, Sacha, fais un effort, Sacha, tu nous saoules. Et quand on est petit, on prend ça très à cœur, quoi.
Bien sûr. Alors ensuite, vous êtes rentrée en 6e dans un collège public du 92, c'est près de Paris. Il y avait des classes spécialisées musique, donc vous continuez sur votre chemin. Et dès la 6e, il y a une fille qui commence à vous prendre en grippe. Qu'est-ce qu'elle vous faisait subir à ce moment-là?
Alors, c'était la fille un peu populaire de la classe. Donc, elle était très appréciée par les élèves, par les surveillants du collège. Et en fait, elle avait cette figure de la fille super cool, super sympa. Et moi, j'étais un peu la seule à être sceptique et à avoir très peur d'elle. Mmh. Et en fait, c'était permanent. Elle se moquait de moi, de ma personnalité, de ce que je disais, de ma façon quand j'interagissais en classe pour participer. Je l'entendais toujours qui rigolait derrière. Et en fait, elle me rendait ridicule, entre guillemets. J'étais drôle pour elle.
Elle vous rabaissait en public?
Elle me rabaissait en public, oui. En fait, dès que j'essayais de m'ouvrir un peu, elle me rabaissait toujours, elle trouvait toujours un moyen pour me dire non, mais t'es là en fait.
Et là, par exemple, quand ça se passait dans la classe, quand elle le faisait devant tout le monde parce que vous participiez, j'imagine, elle se disait, oh là là, la première de la classe, c'est bon. La prof la réglait pas un petit peu? Elle lui disait pas, bon, maintenant
En fait, les profs prenaient ça un peu pour du bruit de fond, quoi.
Oui.
Pour du bruit de fond, et puis ils n'étaient pas réellement intéressés par ça. Mais même les surveillants, hein. Il y a un surveillant qui m'a dit « Non mais Sacha, mais ça arrive de ne pas aimer une camarade, c'est pas grave, elle t'aime pas, ne va pas la voir. En plus, elle est super cool cette fille-là, t'inquiète pas.
Oui, » C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde l'adorait, quoi.
Tout le monde l'adorait.
Est-ce qu'elle a réussi à liguer d'autres élèves contre vous? Parce qu'elle est meneur et elle est suiveur, on sait. Hein,
oui, oui. Ben, en fait, c'est ça, elle faisait partie d'une bande, encore une fois, la bande un peu populaire de la classe. Et leur truc un peu à eux, c'était de se retrouver des après-midi pour regarder des vidéos de YouTube que je mettais sur YouTube, enfin des reprises, quoi. Et ils trouvaient ça très drôle. Mais je devais avoir entre 10 et 12 ans. Et ouais, c'était juste pour se moquer, quoi. Mais j'ai appris ça plus tard et ça m'a vraiment fait mal parce qu'en plus, j'aimais bien mettre moi des vidéos où je chantais, où je montrais ma passion. Et voilà ça.
Tous les jours comme ça, rabaissés, on imagine des petites piques, etc. Dès que vous ouvrez la bouche, vous vous prenez un truc dans la tronche et tout. Est-ce que ça a eu un impact sur votre santé et votre morale aussi? Tout de suite?
Oui. Alors, je ne veux pas dire que c'était tous les jours parce que, en fait, moi, j'avais peur tous les jours que ça arrive, mais il y avait des jours où ça n'arrivait pas. Mais j'avais quand même cette boule au ventre en permanence. Et oui, en fait, enfin, je ne sais pas si c'est lié, mais en tout cas, à cette période-là, j'ai fait beaucoup, beaucoup de crises d'angoisse où j'étais obligée de sortir de la classe ou du cours de sport parce que il y en avait trop, quoi. Il y en avait trop, ça montait jusque-là et j'arrivais pas à gérer ça. Et ça me poursuit encore aujourd'hui, hein, même si maintenant, je sais mieux le gérer. Voilà. Mais quand j'étais petite, en plus, toute seule à l'école, j'avais pas, c'était pas comme à la maison où j'étais soutenue et on m'aimait.
Protégée. Et là, encore une fois, personne n'a remarqué quand vous faisiez des crises d'angoisse. Personne ne le remarquait, aucun surveillant, aucun professeur s'est dit « Tiens, mais quand même, il y a un problème ».
Alors, eux, ils prenaient ça pour... Ils me disaient « Ben voilà, Sacha, c'est une élève très stressée à cause des notes ». Mais ce n'était pas seulement à cause des notes et de l'école, c'était aussi à cause des personnes.
On vous a classé dans la catégorie « Elle est émotive ».
Elle est émotive, voilà.
Voilà. Alors, lors de cette même année, on est toujours en sixième, le harcèlement est monté d'un cran, puisque là, vous avez été victime de violences physiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été l'élément déclencheur?
Alors, en fait, donc on allait au conservatoire donc l'après-midi et sur le chemin, donc voilà, encore une fois, cette bande d'amis se moquait de moi, de mes habits, de ma façon de parler. Et c'était un moment assez drôle pour eux parce que j'allais très mal, je me sentais pas bien. Et parce qu'à force, je pense, de moqueries, voilà, j'avais la tête qui tournait, enfin, j'étais très tremblante. J'allais au conservatoire et je voulais juste qu'ils me lâchent et ça s'arrêtait pas. Et je leur demandais d'arrêter, mais ils ne s'arrêtaient pas. Et moi, d'un naturel super calme, je lui donne un coup dans le visage et j'ai regretté. Hein. Et en fait, elle était tellement étonnée de ce coup. Et elle me prend par les épaules et elle commence à me frapper super fort dans le ventre. Et bon, déjà que je tenais à peine debout, je m'écroule par terre. Et une dame nous arrête dans la rue. Heureusement qu'elle était là. Parce que je pense que là, sinon, j'aurais été couverte de bleu partout. Et elle nous arrête, et donc je vais au conservatoire, et c'est là qu'il y a eu les pompiers qui sont arrivés. Et c'est là que je veux remercier ma grand-mère, qui a été la première personne en fait, à aller la voir, et à lui demander, mais enfin, pourquoi tu fais ça? De quel droit tu fais ça à des enfants? Elle a le même âge que toi, elle est jeune. Enfin, et c'était juste, enfin, très juste, quoi, et très moral de sa part.
Mmh. Et vous attendiez ça, évidemment. La phrase d'un adulte, quoi.
Oui.
Qu'est-ce que je voulais dire? Après cette bagarre, vous avez été obligée en fait, d'en parler à vos parents.
Oui.
Qu'est-ce qui a fait que vous n'en avez pas parlé avant? Parce que ça, c'est une grande question. On a l'impression que les enfants qui sont harcelés, ils rivalisent d'inventivité pour le cacher aux parents. Mm. Qu'est-ce qui se passait dans votre tête? Vous vouliez les protéger de quoi?
Ben, en fait, moi, je pensais que c'était normal. J'étais persuadée que tout ce qui se passait en cours, c'était normal, qu'elle avait le droit de me parler sur ce ton, qu'elle ne m'aimait pas. Parce qu'en fait, tout le monde me disait ça. « Sacha, elle ne t'aime pas. » »« C'est pas grave, elle ne t'aime pas. » Même mes amis proches me le disaient. « Sacha, mais fais un effort. Écoute, elle ne t'aime pas. » Et même, elles allaient, elles se rapprochaient, elles lui trouvaient des excuses. Enfin, c'était assez compliqué quoi, pour moi de comprendre. Et c'est mes parents qui m'ont dit « Non, mais Sacha, mais tu ne te rends pas compte. »
C'est ça. Et votre maman, après, elle est intervenue. Évidemment, elle en a parlé au professeur principal.
C'est ça.
Elle a été sanctionnée, du coup, cette jeune fille?
Non, il n'y a pas eu de sanction. Il n'y a pas eu de sanction à proprement parler. Mais je pense que déjà, le fait d'en parler avec ma grand-mère, avec le professeur principal, ça lui a peut-être mis un coup. Mais bon, après, ça a repris quelques mois plus tard.
Ça s'est un peu calmé quand même.
Mais ça s'est calmé. Ouais,
jusqu'au lycée. Donc là, il y a la rentrée du lycée qui arrive. Vous dites, bon, c'est quand même une nouvelle page qui se tourne. Mm. Et là.
Voilà. L'entrée au lycée, j'étais super heureuse. Nouveau lycée, magnifique. J'étais trop contente de nouvelles personnes. Et en fait, je vois son nom sur la liste. Et je me dis, mais putain, mais enfin, c'est l'horreur, quoi. Ça recommence.
Elle me poursuit.
Cinquième année dans sa classe. Et voilà, en fait, au début de l'année, voilà, c'était pareil, elle ne m'aimait pas. Et elle sympathisait avec deux personnes. Où, en fait, ils faisaient une sorte de bande de trois, où ils étaient à trois à se moquer de moi. Et c'est là que j'ai rencontré une personne formidable qui m'a défendue pour la première fois à l'école.
Et, c'est quoi? C'est une camarade?
Une camarade, ouais. Qui est toujours ma meilleure amie et on est très proches toujours aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'elle intervenait quand elle entendait les moqueries.
Voilà.
Elle intervenait pour vous.
Oui, et ça fait un déclic quoi, pour moi direct.
C'est-à-dire que, et du coup, ça s'est un peu calmé, ils étaient un peu décontenancés, j'imagine. Pour la première fois, il y avait quelqu'un qui se levait pour vous aider. Quoi.
Ben, en fait, elle ne s'y attendait pas du tout, la fille en question. Elle a été épatée quoi, que quelqu'un dise quelque chose parce que tout le monde n'a jamais rien dit. Et alors par contre, elle me détestait presque encore plus parce qu'après, c'était, voilà, on l'a défendu, ça ne va pas du tout, il faut encore qu'on en rajoute. Mais ça me passait tellement au-dessus, comme on m'a défendue.
Vous n'étiez plus toute seule?
J'étais plus toute seule. J'étais plus toute seule.
Il y a 2 ans, vous avez commencé à écrire une chanson sur ce traumatisme. J'imagine que ça a été libérateur pour vous.
Oui. Ben, c'est une de mes plus grandes fiertés, je pense, parce que... pendant très longtemps, j'ai repoussé cette idée-là d'en faire une chanson, parce que c'est ma maman qui m'a dit « Mais Sacha, mais tu t'exprimes le mieux dans la musique et exprime-le à travers une chanson. » Et j'ai repoussé cette idée-là parce que ça me faisait super peur d'en faire quelque chose de représailles, j'avais peur de tout. Et finalement, j'ai pris le courage, j'ai co-écrit le texte et j'ai fait la musique. Et comme je le dis dans ma chanson, en fait, au début, ben, elle me regarde, elle me snob, c'est des vers actifs qu'on vit au quotidien. Et puis ensuite, je m'adresse aux professeurs, aux gens...
Le mieux, c'est qu'on écoute un extrait quand même pour
voir.
Oui,
bien sûr.
Alors, écoutez.
Elle me regarde, elle me snob, elle me rabaisse, elle m'ignore, elle me zappe et elle me hante, elle m'handicape et puis me tape. Elle me fusille du regard, cherche la petite bête pour me piéger, parle de moi à tout le monde sur mon prénom. Déjà usé. Le pire, personne ne se demande a-t-elle au fond vraiment raison. Et quand j'essaie de me justifier, on me claque la porte au nez. Tout le monde la croit plutôt que moi. Tout le monde la suit sans réfléchir. Mais en fait, vous savez quoi, je préfère subir plutôt que partir. C'est juste des mots, mais c'est des mots.
C'est beau. Vous savez que vous connaissez l'expression avoir les poils qui se dressent.
Merci.
Là, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Je comprends qu'elle ait été un peu énervée par vous, mais je pense que là, vous avez passé du harcèlement scolaire au harcèlement des fans. Vous allez voir. Enfin, je ne vous le souhaite pas non plus, hein, parce que ça serait très bien que ce soit un peu modéré. Comment vous allez aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression que c'est derrière vous ou est-ce que vous avez encore les stigmates de tout ça? Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez encore des petites crises d'angoisse.
Oui, oui, oui. Mais c'est ça me poursuit quand même un peu aujourd'hui encore, mais j'ai tourné la page. Et j'ai pardonné à des personnes qui ont été témoins, qui n'ont rien dit, parce que voilà, je pense qu'il faut aller de l'avant. À elle, je ne sais pas si je vais réussir à lui pardonner, mais ce qui est sûr, c'est que je suis super heureuse parce que j'ai une famille qui m'aime, j'ai un copain qui m'aime, je suis juste heureuse, je fais ce que j'aime, je suis dans une école de comédie musicale.
Vous la voyez plus, vous ne savez pas ce qu'elle devient.
Je ne la vois pas et je ne sais pas ce qu'elle devient et je suis très contente comme ça.
Voilà. On est très heureux d'accueillir sur le plateau Emmanuelle Piquet. Bonjour Emmanuelle.
Bonjour Agathe.
Alors vous êtes psychopraticienne fondatrice de Chagrin Scolaire. C'est un centre spécialisé dans l'apaisement des souffrances en milieu scolaire. Donc vous avez écrit de nombreux ouvrages, il faut le dire, sur le sujet, dont évidemment le harcèlement scolaire en 100 questions. C'est chez Talendier, Je me défends du harcèlement, c'est chez Albin Michel, ou encore Te laisse pas faire, chez Payot. Voilà des outils vraiment formidables pour vous parents. Je pense qu'il faudrait, même si votre enfant a priori n'est pas harcelé, l'avoir à la maison pour pouvoir repérer peut-être certains signes. Donc on l'a vu dans l'histoire de Sacha et Emmanuel, ça peut commencer par une seule personne en fait, le harcèlement, c'est pas forcément la horde. Mais après, ça entraîne d'autres élèves. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un élève s'attaque comme ça à un autre élève? Quel est l'élément déclencheur? Quel est le profil de ces harceleurs?
Alors, il y a deux ingrédients en fait, majeurs. Le premier, c'est un objectif. En fait, c'est un objectif de sécurisation. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que, de façon très moderne, les enfants et les ados actuellement sont totalement paniquer à l'idée d'être tout seul et donc d'être harcelé. C'est une panique très moderne. On avait peur de ça. Enfin bon, moi je suis très vieille. Vous aviez un peu peur de ça. Moi j'avais peur de ça, mais pas à ce point-là. En fait, il y a quelque chose de vraiment très 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 inquiétant chez eux. Et donc une façon
plus de violence, non? C'est pas parce qu'on en parle plus?
Si, bien sûr. C'est parce qu'on en parle plus et que c'est vraiment très 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 mis en avant. Donc ils ont extrêmement peur de ça. Et donc une bonne façon au fond de pas se faire harceler, pardon de le dire, mais c'est de harceler.
Oui.
C'est un antidote qui fonctionne plutôt
pas
mal.
La meilleure défense, c'est l'attaque.
Bien sûr, quand on terrorise tout le monde, en effet, on a moins de chances d'être harcelé. C'est la première chose. La deuxième, c'est que, pardon, mais il faut le dire, et d'ailleurs, Sacha le disait très bien, je suis encore un peu émue par son témoignage et sa chanson, mais elle le dit très bien, c'est-à-dire qu'il y a une forme de plaisir chez le harceleur. Il y a un plaisir lié au pouvoir, lié à l'emprise, lié à la toute-puissance, de, en effet, pouvoir gérer tout un groupe. Et ce qui, au fond, donne le feedback que ça fonctionne, c'est la souffrance de l'enfant harcelé, qui est visible dans sa posture, il n'a même pas besoin de le dire, ça se voit en fait, et Sacha le dit très bien, elle disait qu'elle tremblait, qu'elle était extrêmement mal, qu'elle devait tout faire pour ne pas croiser leur regard, pour essayer de d'être le plus recroquevillé possible. Donc voilà les deux raisons pour lesquelles, en effet, le harcèlement commence.
On comprend bien.
Emmanuel, on a une question en vidéo de Louise, alors je vous laisse écouter.
Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 32 ans, je suis maman et ma petite sœur est décédée du harcèlement scolaire. Ce que j'aimerais savoir, c'est si quelqu'un a l'air d'aller bien, comme ma petite sœur, quelqu'un fait beaucoup de sport, a des amis, est en couple, a beaucoup de projets professionnels, mais qu'on suspecte quand même un harcèlement scolaire, qu'est-ce qu'on peut lui dire pour débloquer la parole et l'encourager à parler ? Je vous remercie.
C'est une question absolument excellente parce que, en effet, comme vous le disiez Agathe, il y a à peu près 60% des enfants et des ados qui n'en parlent pas aux adultes, qui n'en parlent pas à leurs parents, qui n'en parlent pas à d'autres adultes. Et donc, une bonne façon, en fait, de les faire parler, si on suspecte quelque chose, si on sent dans son cœur de papa ou de maman qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est de dire « j'ai l'impression que ça ne va pas avec les autres. Je comprends que tu ne m'en parles pas parce qu'il faut comprendre ça. Ils veulent nous protéger et ils ont extrêmement peur aussi de ce qu'on va faire et de ce que ça pourrait générer en fait en termes de conséquences.
Ils ont honte aussi.
Ils ont honte et comme disait Sacha, ça c'est aussi hyper intéressant. Ils ont l'impression qu'au fond c'est comme s'ils le méritaient parce que intrinsèquement ils ne vont pas.
Et mais ça, ça ne va
pas.
Normal.
Oui, ça ne va pas du tout. On peut pas laisser dire que les enfants se font harceler parce qu'ils sont différents, parce qu'ils sont spéciaux. C'est pas vrai. Ouais. Le harcèlement, ça touche tous les enfants, tous les ados, exactement comme la violence conjugale. Donc pour répondre à Louise, vraiment le fait de dire je comprends que tu m'en parles pas pour l'instant. Si jamais, à un moment donné, tu veux m'en parler, sache que je ne ferai rien avec lequel tu ne seras pas d'accord.
Ouais, d'accord.
Parce qu'en fait, on n'écoute pas les enfants harcelés. Ouais. On ne les écoute pas. Alors qu'ils ont des aptitudes, ils connaissent les choses, ils savent les conséquences. Et donc, s'ils disent « ne faites pas ça », il faut les écouter.
D'accord.
À partir du moment où on dit ça, je ne ferai rien avec lequel tu ne seras pas d'accord, ce qui est assez facile à dire, il faut le tenir. Parce que quand, en effet, du coup, l'enfant raconte... On a juste envie de faire
un truc. En tant que parent,
et en même temps, on sent quand même qu'elle n'a pas voulu le dire, mais que quand sa grand-mère s'interpose et dit quelque chose, quand l'adulte quand même prend les choses en main, il y a un soulagement. Donc est-ce qu'il ne faut pas quand même...
Si, donc il faut le dire à un adulte dont on sait qu'il ne fera rien sans notre accord, en fait,
oui,
c'est vraiment ça.
Ouais.
Moi, je pense qu'il faut que l'adulte soit là, évidemment, mais je pense qu'il faut que l'adulte soit là à côté de l'enfant pour l'aider à faire des choses un peu différemment. Mmh. La grand-mère, c'est magnifique ce qu'elle a fait. Le problème, c'est que Sacha le dit bien, c'est que ça, pour autant, ça ne s'arrête pas.
Alors, on a une question de Florence qui dit « Je suis une ancienne harcelée, comment réussir à en parler et à qui s'adresser ?» Clairement, vous le disiez tout à l'heure, la grand-mère, pour Sacha, ça a été une bonne option. Mais vers qui on peut se tourner, quoi ?
Alors, comme je le disais, je pense qu'il faut se tourner vers un adulte en qui on a confiance. Mais alors, ça, c'est un peu global.
Oui.
En qui on a confiance pour qu'il ne fasse pas des choses qui, de notre point de vue d'enfant harcelé, ne sont pas valables ou en tout cas risquent d'aggraver les choses, en fait. Donc, ça peut parfaitement être, en effet, une grand-mère, ça peut parfaitement être une cousine, un parent, hein, sans aucun problème, un CPE, un assistant d'éducation. C'est vraiment la vie scolaire dans les établissements, dans les collèges, c'est des gens qui sont vraiment à l'écoute des élèves. Mmh. En tout cas, c'est leur métier. Ce que je crois, en revanche, c'est que... c'est très difficile pour un adulte dans un établissement de percevoir l'effet de harcèlement.
Oui.
Parce que les enfants sont extrêmement doués pour le faire dans le brouhaha du début de la classe ou de la fin de la classe, de le faire dans les zones grises des établissements, c'est-à-dire les zones dans lesquelles le regard de l'adulte passe peu et qu'ils connaissent parfaitement bien. Mm-hmm. Et donc je crois qu'il faut
les
pas...
Toilettes.
Les toilettes, tout à fait. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il ne faut pas charger, je trouve, trop les équipes éducatives dans les établissements parce que c'est compliqué à voir. Quand on pense que c'est compliqué à voir quand on est parent, puisqu'il y a quand même beaucoup de parents qui s'en rendent compte très tard.
Oui.
Et je voudrais leur dire quelque chose d'ailleurs à ces parents-là, c'est que souvent, ils le savent très tard parce que précisément, ils ont une excellente relation avec leur enfant.
Mmh.
Et que leur enfant ne veut pas leur faire de peine. Parce que parfois, ils culpabilisent en se disant « mais comment j'ai pu passer
à
côté ?»
Mais quand vous dites « il ne faut rien faire que l'enfant ne veuille pas qu'on fasse », en fait, c'est compliqué parce que si, c'est juste, si ça ne va pas dans le bon sens, on va quand même dans son sens à lui, parce que l'idée, ce serait quand même d'aller soit porter plainte, soit voir le directeur d'établissement, non ?
C'est-à-dire qu'en fait, moi, vous connaissez un peu ma proposition. Ma proposition, c'est pas tellement de faire ça, parce que je pense que chaque fois qu'au fond, un adulte intervient, même de façon très bienveillante, très positive, pour faire cesser le harcèlement, en disant par exemple à l'enfant harceleur, tu arrêtes, en disant aux parents des enfants harceleurs, vous lui dites d'arrêter, en disant au directeur d'établissement, il faut lui dire d'arrêter, ça ne fonctionne pas. Les études sont très claires là-dessus. La sanction ne fonctionne pas sur l'effet de harcèlement. Les études sont claires là-dessus. Et pour autant, on continue à faire de la sanction ou de la moralisation. Qu'est-ce qui s'est passé pour la jeune Sacha ? C'est qu'en effet, il y a eu une moralisation. C'est-à-dire que la prof principale ou la CPE ont convoqué la jeune fille en disant « Tu arrêtes, c'est moche de faire ça, c'est pas gentil. » Ça n'a pas fonctionné.
Ce qui a fonctionné,
faut aller au-delà. Ce qui a fonctionné, en revanche, et c'est intéressant, en tout cas dans la perception qu'en a eue Sacha, c'est qu'une amie est intervenue, en effet, une amie qui fait partie de la tribu. Pas un adulte.
Et qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut mettre en place, qui s'occupe de mettre en place justement ce bouclier? Est-ce que c'est pas à l'adulte, aux parents ou au CPE de choisir des élèves
En fait, alors, ce que je crois, c'est que, donc, en effet, cette jeune fille intervient et donc là, ça change quelque chose. Elle le dit très bien parce qu'elle est brillante. Ça change sa perception, c'est-à-dire qu'il continue, mais ça ne la touche plus parce qu'il y a eu cette défense-là, parce qu'il y a eu, parce qu'elle se sent moins seule d'une certaine façon. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut former des adultes dans les établissements, et pas tous les adultes, ceux qui ont envie, parce que c'est un sujet compliqué, le harcèlement. On ne se forme pas en deux journées au harcèlement quand on est adulte, enfin, en tout cas, à l'apaisement du harcèlement, des souffrances liées au harcèlement. Il faut des adultes dans les établissements, qui sont des équipes pluridisciplinaires. Il peut y avoir des enfants aussi. Moi, j'interviens dans pas mal d'établissements où il y a aussi des enfants qui sont dans ces équipes-là, et qui sont capables d'aider un enfant à riposter, en fait. Qui sont capables d'aider un enfant à faire changer l'inconfort de côté. C'est-à-dire qu'il aurait été capable de dire en effet à Sacha, tiens, la prochaine fois qu'elle te dit ça, voilà ce qu'on va répondre, voilà ce que tu vas répondre. Et tu vas attendre qu'il y ait la meute, en effet. Parce que ce qu'il faut, c'est qu'elle tombe de son piédestal. Parce qu'il y avait un piédestal, en fait. Et je pense qu'à partir du moment où, grâce à l'autodérision, qui est une qualité extrêmement importante chez les enfants et les adolescents, moi, je considère que les enfants et les adolescents qui sont capables d'autodérision sont très difficiles à harceler, en fait. Parce que c'est comme s'ils échappaient, au fond, au harcèlement. Autodérision, et puis capacité, évidemment, à créer un inconfort chez le harceleur au moment où il harcèle, en fait.
C'est-à-dire qu'il faut trouver la répartie
absolument.
Au moment M.
Et là, c'est aux adultes, aux adultes de les aider à trouver ça, parce qu'ils ne peuvent pas trouver tout seuls, je suis parfaitement d'accord. Mais l'idée, c'est d'être à côté d'eux en disant « on va s'entraîner ». On va trouver ce qu'il faut dire, on fera que des choses, évidemment, enfin, tu feras, parce que c'est toi qui feras, en fait. Parce que c'est ça, prendre confiance en soi. C'est faire les choses.
Oui, c'est ça. Donc, ce que vous conseillez, en fait, c'est finalement presque de faire des jeux de rôle à la maison, en leur disant, si quelqu'un, c'est marrant, parce que moi, c'est ce que je fais aussi avec mes enfants, je leur fais apprendre des phrases par cœur. J'ai dit, de toute façon, il faut qu'on trouve une phrase qui va pour toutes les attaques. Après, est-ce qu'ils osent le faire? Ça, c'est encore une autre histoire.
C'est celui qui le dit qu'il l'est.
Oui.
Ça marche bien, ça.
Non, mais si je suis moche, toi, alors, qu'est-ce que tu dois être? Une vieille loutre? Parce que j'aime bien les expressions de Marie-Pierre.
On avait fait une émission avec un proviseur, je ne me souviens plus de son nom. Oui. Vous étiez là.
C'était génial.
Il avait mis en place des référents. En fait, ça passait par les réseaux Sentinelles. Des référents, ça passait par les élèves. Ça avait l'air quand même d'être une bonne idée. Et Marie, vous qui êtes prof des écoles, avant d'être star de la télévision. Et comment vous faisiez, comment faire pour garder les yeux ouverts alors qu'on a toute une classe à gérer?
Et c'est exactement ce que vous disiez, c'est très compliqué, d'autant plus quand on a une relation de confiance avec l'enfant, et c'est la nécessité de mettre en place des ateliers de prévention avec des adultes et des élèves volontaires. J'ai envie de penser que ça se calme au lycée, parce que justement, en grandissant, on gagne un peu en...
Non, ça dépend, bon, voilà.
C'était assez vrai jusqu'à il y a 5-6 ans. Ouais. Mais moi, là, je commence à avoir beaucoup de lycéens harcelés et je commence à avoir des étudiants harcelés.
Oh
ce
là
qui
là.
N'était pas le cas
ah
avant.
Oui.
Et de l'autre côté, ça se dilate. C'est-à-dire que j'avais très peu de CE2, ouais. CE1, CE2, je commence à en avoir. Donc moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un phénomène qui se dilate.
Puis il y a tout ce qui se passe en dehors de l'école.
C'est ça,
c'est-à-dire
les réseaux.
Les groupes de classe, tout ce qui est inaccessible pour les parents aussi.
Oui, tout à fait. Donc ça rend les choses encore plus vertigineuses, encore plus douloureuses d'une certaine manière.
C'est ce que disait Agathe. On rend le tablier.
Non, mais c'est surtout que... est-ce qu'on peut parler un peu du profil des enfants harcelés? Parce que moi, j'ai l'impression que ce sont toujours des enfants qui finalement sont ultra talentueux, ou en tout cas qui ont une spécificité que nous, adultes, on trouve formidable, mais qui va appuyer, en fait... Alors, je pense, par exemple, aux enfants précoces, aux enfants hypersensibles, etc. Est-ce que c'est souvent ça, ou est-ce que c'est un cliché?
Non, c'est pas un cliché. C'est pas un cliché. Je pense que malheureusement... Enfin, malheureusement. Je ne sais pas, d'ailleurs, si c'est malheureux. Mais je pense que c'est parfaitement distribué dans la population. Je crois que n'importe quel enfant peut se faire harceler à n'importe quel moment, parce que, au fond, je pense que l'ingrédient majeur du harcèlement, c'est la vulnérabilité. Et n'importe quel enfant peut être vulnérable à un moment donné parce qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie.
Il suffit d'une brèche, en fait.
Il suffit d'une brèche, à un moment donné. Parce que, je l'ai expliqué ici déjà, les enfants et les adolescents, ils ont une espèce de radar extrêmement précis pour savoir déceler qui est potentiellement vulnérable. Et donc, ils vont essayer.
Instinctif ?
C'est instinctif. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on les outille, puisque nous, c'est notre métier, donc on va les outiller en disant la prochaine fois qu'il te dit ça, tu vas répondre ça. Et pour qu'ils aient moins peur, on leur dit, et donc, qu'est-ce qu'ils pourraient répondre ? Et ils connaissent leur harceleur. Donc, ils disent, il va répondre ça. Et donc, on va dire, d'accord, alors à ce moment-là, tu réponds ça. Et donc, en fait, on reboucle, vous voyez, pour que, justement, ils se sentent assurés comme un peu en escalade. Et du coup... ces enfants-là, ce qui se passe, c'est que dans 50% des cas, quel que soit d'ailleurs leur âge, et ça, ça nous frappe beaucoup, ils arrivent à l'école, au collège ou au lycée, avec cette stratégie en tête, et le harcèlement s'arrête, sans qu'il l'ait mis en place. 50% des cas.
Parce que déjà, ils ont une posture, j'imagine, un truc qui est déjà plus assuré. Quoi.
Parce que intuitivement, exactement, le harceleur s'est dit « j'y vais plus ». Il ne saurait sans doute pas le dire, hein, les raisons pour lesquelles il n'y va plus, mais en tout cas, il n'y va plus.
Qu'est-ce qu'il faut faire comme... pardon, hein, parce que je pique toutes les questions des téléspectateurs. en prévention. C'est-à-dire que si on a des personnes qui nous regardent avec des enfants petits, ça se travaille, j'imagine, la prévention des tout petits.
Alors, moi, ce n'est pas du tout ma compétence, la prévention. En fait, je suis vraiment, moi, dans l'aspect résolutoire des choses.
Alors, on passe aux questions des téléspectateurs.
Qui sont quand même bien meilleures que vos questions.
Bon, bah, écoutez, ça va, Benjamin.
Non, mais... ouais, ma fille de...
Ok, Yasmine.
Non, je n'ai pas envie de poser de
questions. Non, mais je veux dire, on peut leur donner, parce que je sais que vous appelez ça des flèches, on peut leur donner des flèches, c'est-à-dire des phrases clés pour se défendre
oui.
avant même que le harcèlement arrive, et il n'arrivera peut-être jamais.
Absolument. Simplement, la stratégie est beaucoup plus adaptée quand la situation est là. Le risque, c'est qu'elle soit un peu... Voilà, c'est ouais, tout, c'est global.
Alors, du coup, Léa, vous dit ma fille de 15 ans se fait harceler sur les réseaux sociaux par des gens de sa classe. Que peut-on conseiller contre le harcèlement en ligne? Et c'est vrai que ça, c'est un fléau.
Alors, comme le disait très bien la défenseure des droits sur France Inter il y a deux jours, je trouve que c'est tout à fait, c'est exactement ça, elle disait, en fait, le harcèlement commence à l'école, au collège, au lycée, et il dérape sur les réseaux. C'est pas un harcèlement en soi, en fait, le cyberharcèlement. D'ailleurs, vous n'avez aucun ado qui va vous dire « je suis cyberharcelé hein. ». Ils ne disent pas ça, ils disent « je suis harcelé tout court ». Autrement dit, c'est important, ça veut dire que si, en effet, on coupe un ado de tous les réseaux sociaux, il va continuer à se faire harceler par ailleurs, puisqu'en fait, ce qui dysfonctionne, c'est la structure de la relation, d'une certaine manière. Donc, ça, c'est vraiment important de bien comprendre que c'est une modalité supplémentaire. Ce n'est pas un changement de nature, c'est un changement de degré. Okay. J'ajoute qu'en effet, en termes d'intensité, c'est tout à fait douloureux, bien plus douloureux et bien plus vertigineux, c'est clair. Donc, au début du...
Parce que ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas à la frontière d'école.
Absolument, parce que ça peut devenir viral, en effet. Et donc, du coup, je pense que c'est hyper important d'intervenir le plus rapidement possible, mais de la même façon, c'est-à-dire, à partir du moment où ça commence, si c'est dans un groupe WhatsApp, par exemple, parce que c'est quand même souvent là que ça commence, ou qu'on sait quels sont les émetteurs des... Parce qu'ils le font beaucoup par SMS, en fait, hein, paradoxalement. Ce n'est pas non plus des choses très sophistiquées, hein, le cyberharcèlement. Il faut très vite pouvoir riposter de façon stratégique, parce que si l'enfant se tait, il montre à ses harceleurs que ça lui fait quelque chose, en fait, hein, paradoxalement. Mais pour pas que ça devienne viral, c'est hyper important de connaître des associations comme par exemple l'association e-enfance, qui est une association qui permet très rapidement de bloquer un certain nombre de choses pour que ça ne devienne pas viral.
Ça, c'est bien.
Jade vous demande quelles sont les conséquences psychologiques du harcèlement scolaire sur les enfants, sur les victimes.
Alors, comme Sacha le disait très bien, hein, ça fait des enfants quand même assez anxieux dans les relations, d'une façon générale, même si c'est tout à fait statistique, hein, c'est pas... Voilà, c'est des enfants qui... voilà, qui ont moins confiance, par exemple, pour s'installer en couple, qui ont plus de difficultés à trouver un travail, de façon statistique. Hein. Il y a une étude, en effet, britannique, qui a montré sur une cohorte de personnes qu'ils ont suivies jusqu'à leurs 60 ans, pour des enfants qui ont été harcelés et qui ne s'en sont pas sortis par leurs propres moyens. Je précise, parce que c'est hyper important, parce que de mon point de vue, lorsqu'un enfant arrive à sortir de ce fléau en allant puiser dans ses ressources, il prend une confiance en lui qui fait que toutes ces conséquences, de mon point de vue, sont beaucoup moins graves.
Merci beaucoup à Emmanuel Piquet pour ses bons conseils et merci surtout à Sacha d'avoir accepté de venir se raconter, ce qui était évidemment pas simple, qui plus est, vu le sujet. Voilà, merci à toutes, merci à tous. On se retrouve demain à l'antenne de France 2 sur les réseaux sociaux, en podcast, bien évidemment. Si vous avez des idées de thèmes, s'il y a des thèmes que vous aimeriez bien voir abordés sous cette forme, en podcast, vous n'hésitez pas, vous venez me les suggérer. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé il y a quelques jours. Quelqu'un est venu me voir et m'a dit, enfin, quelqu'un m'a écrit sur Instagram, m'a dit « Benjamin, ce serait bien un podcast entier sur la PMA pour entendre plusieurs témoignages. » Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Et donc, je suis allé enregistrer lundi avec Rachel Trèves, qui est psychologue clinicienne, qui suit beaucoup de couples en parcours PMA. J'ai eu beaucoup de témoignages à ce sujet. Donc là, l'épisode est en montage, comme on dit, il sera en ligne ce samedi après-demain, un épisode d'une heure à peu près sur la PMA, qui, je pense, accompagnera et donnera des bonnes clés aux couples qui peuvent vivre en ce moment ce parcours, ce marathon de la procréation médicalement assistée. Donc voilà, ça vient d'une idée de vous, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des idées, vous me les envoyez. Allez, j'arrête de parler, parce que là, je parle beaucoup, je m'en rends compte. Salut tout le monde.